Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eddie.
Sur le gâteau, on lit « Bonne chance, bagarre-toi ferme ». Et sur un côté, quelqu'un a ajouté les mots « Reviens vite » en lettres bleues sinueuses. Mais le « vite » étant compressé, on lisait plutôt « Reviens vite ». La mère d'Eddie avait déjà nettoyé et repassé ses vêtements du lendemain. Elle les avait accrochés sur un porte-manteau à la poignée de l'armoire de sa chambre et avait posé son unique paire de chaussures cirées en dessous. Eddie est à la cuisine. Les mains derrière le dos, il fait l'idiot avec ses cousins roumains qui essaient de lui filer des coups dans le ventre. Par la fenêtre de la cuisine, l'un d'eux tend le doigt vers le carrousel illuminé pour les clients en nocturne. « Chevaux !» s'exclame l'enfant. La porte d'entrée s'ouvre et Eddie entend une voix qui fait bondir son cœur encore maintenant. Il se demande si c'est une faiblesse qu'il ne devrait pas emporter à la guerre. « Bonjour, Eddie, » lui dit Marguerite. La voilà sur le seuil de la cuisine, avec son air merveilleux, et Eddie ressent ce chatouillement familier dans la poitrine. Elle essuie quelques gouttes d'eau sur ses cheveux et sourit. À la main, elle tient une petite boîte. « Je t'ai apporté quelque chose pour ton anniversaire et aussi pour ton départ. » Elle sourit à nouveau. Eddie a tellement envie de la serrer contre lui qu'il se sent sur le point d'éclater. Peu lui importe le contenu de la boîte. Un seul souvenir compte, le moment où elle la lui tend. Comme toujours quand il s'agit de Marguerite, Eddie ne souhaite qu'une seule chose, arrêter le temps. « C'est super !» lui dit-il. Elle rit. « Tu ne l'as même pas encore ouverte. »« Écoute. » Il se rapproche. « Est-ce que... »« Eddie !» hurle quelqu'un dans l'autre pièce. « Viens un peu souffler les bougies. »« Ouais, ouais. Allez, on a faim. »« Chut, sale, s'il te plaît. »« Mais si, on a faim. » Il y a du gâteau, de la bière, du lait, des cigares. Et on porte un toast en l'honneur d'Eddie. Vient un moment où sa mère commence à pleurer. Et où elle étreint Joe, son autre fils qui reste au pays parce qu'il a les pieds plats. Plus tard, ce soir-là, Eddie emmène Marguerite le long de la promenade. Il connaît par son prénom le moindre vendeur de tickets ou de saucisses et chacun lui souhaite bonne chance. Quelques femmes plus âgées ont les larmes aux yeux et Eddie se dit que leurs fils doivent être déjà partis. Marguerite et lui s'achètent des sodas au goût de fruits, de mélasse et de cerises, ainsi que des friandises dont ils picorent des morceaux dans le petit sac blanc où leurs doigts s'amusent à se bagarrer. Dans la galerie de jeu, Eddie actionne une main en plâtre et la flèche dépasse « mou », puis « bof », puis « moyen » pour monter jusqu'à « balèze ».« Tu es vraiment costaud », lui dit Marguerite. « Tu veux dire « balèze » ?» interroge Eddie en faisant saillir ses muscles. À la fin de la soirée, ils sont debout sur la promenade comme dans une scène de film et se tiennent les mains, appuyées contre la rambarde. Là-bas, sur le sable, un vieux chiffonnier a rassemblé des bouts de bois et des serviettes déchirées pour se faire un petit feu, à côté duquel il s'est recroquevillé pour la nuit. « Pas besoin de me demander d'attendre, » dit brusquement Marguerite. Eddie déglutit. « Ah bon ?» Elle hoche la tête. Eddie sourit. Débarrassé d'une question qui lui a serré la gorge toute la soirée, il lui semble qu'une corde vient juste de saillir de son cœur et de s'enrouler autour de ses épaules à elle, l'attirant près de lui et la faisant sienne. Il l'aime plus à ce moment-là qu'il a jamais imaginé pouvoir aimer quiconque. Une goutte de pluie tombe sur son front, et encore une autre. Il lève les yeux vers les nuages menaçants. « Hé, balèze !» fait Marguerite. Elle sourit, mais baisse ensuite la tête et cligne des yeux pour en chasser l'eau tellement bien qu'Eddie a du mal à dire s'il s'agit de gouttes ou de larmes. « Évite de te faire tuer. D'accord ?» l'implore-t-elle. Le soldat qui vient d'être libéré est bien souvent furieux, que ce soit à cause des nuits et des jours perdus ou de la torture et de l'humiliation subie qui éveillent en lui un terrible désir de vengeance, sans parler de celui de remettre les compteurs à zéro. Aussi, quand Morton, les bras chargés d'armes volées, lança aux autres « brûlons tout ça », la réaction logique fut un oui franc et massif. Imbus de leur nouveau sentiment de toute puissance, les hommes se dispersèrent en possession de la force de frappe ennemie. Smithy vers l'entrée de la mine de charbon, Morton et Eddie vers les barils d'essence, tandis que le capitaine se mettait en quête d'un véhicule. « On se retrouve ici dans 5 minutes, » aboya-t-il. « Le bombardement va bientôt reprendre, et là, faudra être parti. Pigé, 5 minutes. » Juste assez de temps pour détruire ce qui les avait abrités pendant près de 6 mois. Smithy lança les grenades dans le puits de mine, puis fila en courant. Eddie et Morton firent rouler au milieu des cabanes 2 barils qu'ils ouvrirent, non sans les avoir examinés au préalable. L'un après l'autre, ils allumèrent l'extrémité de leur lance-flammes et regardèrent les cabanes s'embraser. « Brûlez !» hurla Morton. « Brûlez !» hurla Eddie. Le puits de mine explosa de l'intérieur et une fumée noire s'éleva à l'entrée. Sa besogne accomplie, Smithy courut vers le point de ralliement. D'un coup de pied, Morton envoya son baril d'essence dans une cabane et déclencha ainsi un jet de flamme serpentiforme. Eddie observait en ricanant, puis il descendit le sentier qui menait à la dernière cabane. Elle était plus grande que les autres. On aurait dit une grange. Et il leva son arme. « C'est fini !» se dit-il. « Fini !» Toutes ces semaines et tous ces mois passés entre les mains de ces salauds, de ces gardes inhumains aux dents carriées, aux visages décharnés qui leur avaient servi de la soupe aux frelons. De toute évidence, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait s'en suivre. Mais après ce qu'ils avaient enduré ici, ça ne pouvait pas être pire. Eddie pressa sur la détente. Vouf! Le feu prit très vite. Le bambou était sec et en moins d'une minute, les flammes orange et jaune consumèrent les murs de la grange. Eddie entendit tout au loin le grondement d'un moteur. Il se prit alors à espérer que le capitaine avait trouvé un véhicule pour assurer leur fuite. Mais brutalement surgi dans le ciel, il s'agissait en fait des premiers bruits du bombardement, ces mêmes bruits qu'ils avaient entendus nuit après nuit. Les voilà qui s'étaient encore rapprochés, et Eddie comprit que le pilote verrait les flammes. Quel que soit son camp, cet avion leur viendrait forcément en aide. Et il pourrait rentrer chez lui. Il se tourna vers la grange en flammes et... Qu'est-ce que c'était? Il cligna des yeux. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose franchit le seuil d'un bond. Eddie plissa les yeux pour mieux voir. La chaleur était intense et il se mit sa main en visière. Il n'en était pas sûr, mais il lui semblait avoir entrevu une petite silhouette courir au milieu des flammes. « Hé !» hurla Eddie en avançant d'un pas et en baissant son arme. « Hé !» Le toit de la grange commençait à s'effondrer, dispersant dans sa chute flammes et étincelles. Eddie fit un saut en arrière. Ses yeux larmoyaient. C'était peut-être bien une ombre après tout. « Eddie, on y va !» Depuis le haut du sentier, Morton lui faisait signe de le rejoindre. Les yeux d'Eddie piquaient. Il respirait difficilement. Il tendit le doigt en hurlant. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans ?» Morton mit sa main en cornet. « Quoi ? Quelqu'un dedans ?» Morton secoua la tête. Il n'entendait rien. Eddie se retourna et fut presque sûr de voir à nouveau la silhouette enfantine rampant là-bas, dans la grange en feu. Cela faisait plus de 2 ans qu'Eddie vivait uniquement entouré d'hommes, donc de silhouettes adultes, et cette vague ombre lui évoqua brutalement ses jeunes cousins à Ruby Pier. Le petit train qu'il conduisait alors, les montagnes russes et les gamins sur la plage, Marguerite, sa photo et tout ce qu'il avait chassé de son esprit depuis tant de mois. « Hé, sors de là !» hurla-t-il en laissant tomber le lance-flamme et en se rapprochant encore. « Je ne tirerai !» Une main agrippa son épaule, l'attirant d'un coup sec vers l'arrière. Eddie fit brusquement volte-face, les poings serrés. C'était Morton qui hurlait « Eddie, il faut partir maintenant !» Eddie secoua la tête. « Non, non, attends, attends, attends. Je pense qu'il y a quelqu'un là. Il n'y a personne là-dedans. Viens !» Eddie était désespéré. Il revint à la grange et Morton l'empoigna à nouveau. Cette fois-ci, Eddie se retourna brusquement et le frappa en pleine poitrine. Morton tomba à genoux. De grands coups résonnaient dans la tête d'Eddie et son visage se tordit de colère. Il se retourna pour regarder encore les flammes, les yeux mi-clos. Là, c'était quoi qui roulait donc derrière le mur, là? Il fit un pas en avant, convaincu qu'un innocent se consumait sous ses yeux. Puis, le reste du toit s'effondra dans un grondement, dispersant sur sa tête une pluie d'étincelles comme autant de poussières électriques. Au même instant, la totalité de la guerre lui remonta comme de la bile. Il eut le cœur soulevé par la captivité et les meurtres, le sang et la bouillie qui séchaient sur ses tempes, le bombardement, l'incendie et la vanité du tout. Son unique souhait du moment était de sauvegarder quelque chose, un fragment de Rabozzo, de lui-même, qu'importe. Et il s'avança en chancelant vers les débris en flammes, persuadé, même si c'était insensé, que chaque ombre noire abritait une âme. Les avions vrombissaient au-dessus de sa tête et les rafales de leurs mitraillettes ressemblaient à des roulements de tambour. À la manière dont Eddie avançait, on l'aurait dit hypnotisé. Il franchit une flaque d'essence qui avait pris feu et le dos de ses vêtements s'enflamma à son tour. Une flamme jaune monta le long de sa cheville et de son mollet. Il leva les bras et hurla « Je vais vous aider, sortez, je ne vais pas tirer !» C'est alors qu'une douleur aiguë lui traversa la jambe. Il lança un long juron, un énorme juron, puis il s'effondra sur le sol en hurlant. Sous son genou, le sang coulait à flots, tandis qu'en haut, les moteurs des avions rugissaient et que le ciel s'illuminait de flammes bleuâtres. Alors qu'il gisait là, en sang et en flammes, les yeux fermés pour se protéger de la chaleur desséchante, pour la première fois de sa vie, Eddie se sentit prêt à mourir. Puis, quelqu'un le tira en arrière, le roula dans la boue comme un sac de haricots secs afin d'éteindre les flammes, et il se laissa faire, trop sonné et trop faible pour résister. Il se retrouva bientôt dans un véhicule entouré des autres qui l'incitaient à tenir bon, à tenir bon. Il avait le dos brûlé et le vertige. Son genou était endormi et il était las, tellement, tellement las. Le capitaine hocha lentement la tête à l'évocation de ces derniers instants. « Tu te rappelles comment tu t'es sorti de là ?» lui demanda-t-il. « Pas vraiment. Il t'a fallu 2 jours. Tu n'arrêtais pas de perdre et de reprendre connaissance. Tu as beaucoup saigné aussi. »
« On s'en est sorti comment ?»«
On s'en est sorti pourtant. »« Ouais. » Le capitaine traîna sur le mot et le ponctua d'un soupir. « Cette balle t'a joliment bien eu, en tout cas. » En fait, la balle n'avait jamais été entièrement enlevée. Elle avait sectionné plusieurs tendons et nerfs et s'était heurtée à un os causant une fracture verticale. Eddie avait subi 2 interventions, mais aucune n'avait résolu le problème. Les médecins l'avaient informé qu'il lui en resterait une claudication qui empirerait vraisemblablement avec l'âge à mesure que ses membres déformés s'abîmeraient. « On a fait pour le mieux », avait-il dit. « Vraiment ?» Et il savait ça comment. Tout ce qu'Eddie savait, lui, c'est qu'il s'était réveillé dans une unité médicale et qu'après ça, sa vie n'avait plus jamais été la même. Plus question de courir ni de danser. Pire encore, pour une sombre raison, son ressenti habituel des choses avait été altéré lui aussi. Il se retira en lui-même tant ces choses lui semblaient sottes ou inutiles. La guerre s'était immiscée en lui, dans sa jambe et dans son âme aussi. En tant que soldat, il avait appris bien des choses. Ce fut un autre homme qui revint chez lui. « Savais-tu que je descends de 3 générations de militaires ?» lui dit le capitaine. Eddie haussa les épaules. « Eh oui, je savais tirer au pistolet à 6 ans. Le matin, mon père inspectait mon lit en faisant rebondir une pièce sur les draps. » Et à table, c'était toujours « affirmatif » ou « à vos ordres ». Avant d'entrer dans l'armée, recevoir les ordres en question était mon fort. Finir par en donner était donc la suite logique. Être militaire en temps de paix, c'était une chose, et j'ai eu quelques petits futés comme recrues. Mais quand la guerre a éclaté, les bleus ont afflué, des jeunes gens comme toi, et tous me saluaient en me demandant ce qu'il fallait faire. Je voyais la peur dans leurs yeux. Ils se comportaient comme si je détenais sur la guerre un secret quelconque, sur la manière de les maintenir en vie, par exemple. Tu l'as cru aussi, non ? Eddie dut reconnaître que oui. Le capitaine s'étira, puis se frotta le cou. Comme si c'était le cas, moi aussi, je recevais des ordres. Mais si j'ignorais comment vous maintenir en vie, je pensais être capable d'au moins vous garder ensemble. Au beau milieu d'une grande guerre, on cherche toujours une petite idée à laquelle se raccrocher. Et quand on l'a trouvée, On s'y accroche comme un soldat s'accroche à son crucifix quand il prie au fond d'un trou. Pour moi, cette petite idée, c'était la phrase que je ne cessais de vous répéter, comme quoi je ne laisserai personne en rade. Eddie hocha la tête. C'était drôlement important pour nous, assura-t-il. Le capitaine le regarda bien en face. J'espère bien. Puis, il plongea dans sa poche de poitrine et en sortit une autre cigarette qu'il alluma. « Pourquoi vous dites ça ?» demanda Eddie. Le capitaine souffla la fumée, puis, du bout de sa cigarette, il désigna la jambe d'Eddie. « Parce que c'est moi qui t'ai tiré dessus. » Eddie regarda sa jambe qui se balançait par-dessus la branche. Les cicatrices de l'opération étaient revenues, et la souffrance avec. Il sentit monter en lui un sentiment qu'il n'avait plus éprouvé depuis avant sa mort, depuis bien longtemps. Donc, une incontrôlable poussée de colère doublée du désir de faire mal. Il plissa les yeux, dévisagea le capitaine qui lui rendit son regard avec indifférence, comme s'il connaissait la suite. D'ailleurs, ses doigts lâchèrent la cigarette. « Vas-y, » murmura-t-il. Eddie hurla, se jeta sur lui en agitant un bras, puis les deux hommes tombèrent de l'arbre et roulèrent au beau milieu des branches et des lianes tout en continuant de se battre. « Pourquoi, salaud, espèce de salaud ? Pas vous ! Pourquoi ?» Les voilà qui s'empoignaient sur le sol boueux à présent, et Eddie se retrouva à califorchon sur la poitrine du capitaine, dont il martelait le visage sans que ce dernier saigne pour autant. Eddie le secoua par le col, lui cogna la tête dans la boue, et le capitaine ne scia pas davantage. Il se tourna plutôt d'un côté, puis de l'autre, sous l'impact de chaque coup, laissant libre cours à la fureur d'Eddie. Pour finir, d'un seul bras, il saisit ce dernier, qu'il retourna alors sur le dos. « Parce que sinon, tu ne serais pas sorti vivant de cet incendie, » lui expliqua-t-il calmement, le coude en travers de la poitrine d'Eddie. « Tu serais mort, alors que ce n'était pas encore ton heure. » Eddie haletait violemment. « Mon heure ?» Le capitaine poursuivit. « Ton idée fixe, c'était d'entrer dans cette cabane. Tu as pratiquement assommé Morton quand il a essayé de t'arrêter. On avait une minute pour te sortir de là. Et vu ta satanée force, on n'avait pas beaucoup de chance de gagner. » Eddie eut un dernier sursaut de rage et agrippa le capitaine par le col. Il se rapprocha encore de lui et vit ses dents jaunies par le tabac. « Ma jambe !» siffla Eddie. « Ma vie !» « J'ai sacrifié ta jambe pour te sauver la vie, » lui dit tranquillement le capitaine. Eddie relâcha son emprise et se laissa retomber épuisé. Ses bras lui faisaient mal, la tête lui tournait. Pendant toutes ces années, il avait été hanté par cette erreur bien précise, ce moment bien précis où sa vie entière avait basculé. Il n'y avait personne dans cette cabane. Mais pourquoi j'ai cru ça, si seulement je n'y étais pas entré? Sa voix ne fut plus qu'un murmure. « Pourquoi je ne suis pas mort, tout simplement ?»« Je vous avais promis de ne laisser personne en rade, tu te souviens ?» lui rappela le capitaine. « Ce qui s'est emparé de toi, je l'ai observé chez d'autres gars des tas de fois. Un soldat arrive à un certain point, puis il ne peut pas aller plus loin. Parfois, ça se passe au milieu de la nuit. Le soldat va très simplement sortir de sa tente et se mettre à marcher pieds nus, à demi dévêtu, comme s'il rentrait chez lui ou qu'il habitait juste au coin de la rue. Parfois, ça se passe en plein combat. Le soldat laisse tomber son fusil et son regard est vide. Dès ce moment-là, il est cuit. Il ne pourra plus se battre. D'ailleurs, en général, il se fait tuer. Dans ton cas, même chose. Tu as craqué devant un incendie. Une minute à peine avant qu'on file. Pas question pour moi de te laisser brûler vif. Je pensais qu'une blessure à la jambe, ça se guérirait. On t'a sorti de là, puis les autres t'ont conduit dans une unité médicale. » La respiration d'Eddie martelait sa poitrine. Sa tête était souillée par la boue et les feuilles. Il lui fallut une minute pour bien comprendre les dernières paroles du capitaine. « Les autres ? Qu'est-ce que vous voulez dire, les autres ?» lui demanda Eddie. Le capitaine se leva. Il chassa une brindille de sa jambe. « Est-ce que tu m'avais jamais revu ? » lui lança-t-il. « Non, en effet. Eddie avait été transporté en avion à l'hôpital militaire,
puis son handicap lui avait valu d'être démobilisé et renvoyé ensuite aux États-Unis. Des mois plus tard, il avait entendu dire que le capitaine ne s'en était pas sorti, mais il l'avait cru mort dans un autre combat, à la tête d'une autre unité. Une lettre contenant une médaille arriva un jour, mais Eddie l'avait laissée de côté sans l'ouvrir. Les mois qui suivirent la guerre furent sombres et peuplés d'idées noires. Il oublia les détails et n'avait d'ailleurs aucune envie de les rassembler. Avec le temps, il changea d'adresse. « C'est bien ce que je disais, » poursuivit le capitaine. « Tétanos, fièvre jaune, toutes ces vaccinations, une fameuse perte de temps. » D'un mouvement de tête, il indiqua une direction derrière l'épaule d'Eddie, qui se retourna alors pour regarder. Et il vit tout à coup, non plus les collines dénudées, mais la nuit de leur évasion avec sa lune embrumée, ses avions et ses cabanes en feu. Au volant d'un véhicule de capitaine, à l'intérieur Smithy, Morton et Eddie, étendus sur le siège arrière, brûlés, blessés et à demi conscients, tandis que Morton fixait un garrot au-dessus de son genou. Les obus tombaient de plus en plus près. Le ciel noir s'illuminait à quelques secondes d'intervalle, comme si le soleil s'allumait et s'éteignait périodiquement. Le véhicule fit une embardée en arrivant en haut de la colline, puis il fut arrêté par un portail de fortune fait de bois et de fils de fer, impossible à contourner à cause d'une dénivellation abrupte des deux côtés. Le capitaine s'empara d'un fusil et bondit hors du véhicule. D'un coup de feu, il fit sauter la serrure et ouvrit le portail en grand. D'un geste, il ordonna à Morton de prendre le volant, puis d'un autre, il désigna ses propres yeux pour indiquer qu'il allait inspecter le sentier qui virait plus loin dans un bosquet. Il courut aussi vite que l'on peut lorsque l'on est pieds nus, 50 mètres après le virage. La voie était libre et il fit signe à ses hommes d'avancer. Au-dessus de sa tête, un avion vrombissait et il leva les yeux pour voir de quel bord il était. C'est alors qu'il scrutait le ciel qu'un petit cliquetis se fit entendre sous son pied droit. La mine antipersonnelle explosa immédiatement, comme une flamme éructée depuis le cœur de la terre. Elle souffla le capitaine 5 mètres en l'air et le déchiqueta en 1000 morceaux, ne laissant plus de lui qu'un amas brûlant fait d'os, de cartilage et d'une centaine de tronçons de chair calcinée, dont certains voltigèrent par-dessus la terre boueuse pour atterrir dans le banyan.